Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'approche des vacances estivales, synonyme pour les plus chanceuses et chanceux de voyage, à la découverte de sites balnéaires, je vous propose aujourd'hui de partir à La Rochelle exactement et sur l'île de Ré, en face de la cité, un lieu de rêve, beau, calme, maritime, mais derrière la carte postale se cachent aussi des réalités plus sombres, plus graves, voire cachées aux yeux des touristes. Et c'est bien ce que nous allons découvrir dans le nouveau livre de notre invité, un roman noir intitulé « Je suis le feu » aux éditions du Seuil. Bonjour Max Monoé.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de cette fiction policière qui s'inscrit à la suite de votre précédente publication, Sombre, mais qui se lit tout à fait indépendamment, et dans laquelle on retrouve votre personnage principal, Victor Caran, un psychologue carcéral, sollicité ici par une équipe de policiers à La Rochelle, confronté à ce qui va s'avérer être une affaire de meurtre en série. Nous y reviendrons. Pour commencer, évidemment, un mot sur le choix de cette région en particulier, dont vous n'êtes pas originaire, je crois. C'est donc un coup de foudre pour La Rochelle, pour l'île de Ré. À l'origine de votre écriture, située là, précisément ?
Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est un coup de cœur. Moi, je suis originaire de Beauvais, en Picardie.
C'est bien plus au nord
et vraiment très, très différent, on peut dire, de cette région-là. Et en fait, j'ai découvert cette région il y a 5 ou 6 ans, par le biais des parents de mon conjoint. Je ne connaissais pas du tout, et c'est vrai que ouais, j'ai eu un genre de coup de foudre. Et quand il m'est venu à l'idée d'écrire du polar, je me suis dit, oh, ouais, La Rochelle, l'île de Ré. Derrière, comme vous l'avez dit, ces paysages de cartes postales, il est très, très, peut-être, bienvenu de rajouter du sombre là-dedans. Et ce contraste-là, en fait, m'inspirait énormément.
Oui, parce qu'en effet, c'est splendide quand on a eu la chance d'y aller, mais pas seulement. Par exemple, la ville de La Rochelle, au-delà de son centre historique, de son port, est aussi constituée alentour de quartiers qui ne sont pas épargnés par tous les problèmes sociétaux des autres villes. Et puis, quant à l'île de Ré, qui, je le rappelle, est donc reliée à la côte par un pont, là, il faut expliquer l'une des spécificités peu connues du grand public, à savoir l'existence d'une centrale pénitentiaire d'un genre tout à fait particulier, peut-être unique en France, et qui au début d'ailleurs était un bagne, n'est-ce pas ?
Oui, cette centrale est unique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est sise dans un ancien fort Vauban, effectivement. C'était là où étaient réunis les détenus qui étaient condamnés au bagne. Donc avant de partir en Guyane et ailleurs. Et donc, les cellules de cette prison ne sont même pas aux normes françaises, parce qu'elles sont beaucoup plus petites, parce que en fait, cette prison, oui, est juste là, dans un lieu qui n'est pas fait pour ça, en fait. Pas aux normes, quoi. Qui ne respecte pas les normes.
Mais sans doute parce qu'à l'époque, l'île de Ré n'était pas un site touristique. C'était vraiment juste une île. D'ailleurs, il n'y avait pas le pont.
Alors, c'est déjà ça. Et puis ce fort date de plusieurs centaines d'années. Et puis, autre spécificité, c'est que même si j'ai appris quand même que très peu de centrales sont annoncées avec des grands panneaux dans les villes, là, tout est fait vraiment pour la gommer. Pour des questions touristiques, clairement, ça veut dire que ça donne des images très étranges de familles qui roulent à vélo. Il y a une voie pour vélo qui longe les murs de cette prison.
Une piste cyclable.
Une piste cyclable, exactement. Et donc, ça fait très, très bizarre quand on sait que derrière ces murs-là, il y a 400 détenus qui, en plus, ne sont pas des enfants de cœur parce que des récidivistes, clairement, condamnés pour des faits très graves. Moyenne de peine, 18 ans, hein, quand même. C'est la plus haute, plus grande en France.
Oui, c'est la prison pour les longues peines, n'est-ce pas ?
C'est la prison avec les plus longues peines, en tout cas. Et du coup, ces images-là sont frappantes quand on sait ce qui se passe derrière, quand on sait ce qu'il y a derrière. Et ces enfants et ces familles qui roulent, voilà. Moi, c'est peut-être cette image-là qui, la première, m'a donné envie d'écrire là-dessus.
Oui, parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas deviner un instant qu'au pied de ce fort, il s'agit d'une prison derrière laquelle, en effet, 400 détenus, avec un taux d'évasion à 0%.
Oui. Ça n'arrive jamais. Ou quand ça arrive,
ils sont rattrapés.
Ils sont rattrapés très 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 vite.
Soit sur l'île, soit dans la mer dans laquelle ils peuvent essayer de se jeter. Est-ce que Max Monnet, vous avez demandé à y rentrer dans cette prison pour vous documenter, pour peut-être aussi faire des ateliers d'écriture, je ne sais pas.
Alors justement, ce matin encore, j'ai eu un message. Je suis en contact avec une ancienne psychologue carcérale qui travaillait à la centrale de Saint-Martin, de Ré, et grâce à qui je vais pouvoir rentrer dans la prison, oui. Alors, atelier d'écriture, ce n'est pas prévu pour l'instant, déjà parce que je ne sais pas si j'en suis moi-même capable, mais en tout cas, rencontre avec certains prisonniers qui auront lu les livres et avec qui il y aura une discussion sur ce qu'ils pensent de ce que j'ai écrit de leur prison dans les romans. Ça va se faire d'ici la fin de l'année.
Eh bien, justement, parler de cette prison de Saint-Martin-en-Ré avec vous, Max Monnet, me donne l'occasion de vous annoncer une nouvelle très récente qui a été faite il y a quelques jours à l'Académie Goncourt, donc au restaurant Drouhan à Paris, à savoir la création à la rentrée littéraire du Goncourt des détenus. Et c'est une information que m'a confirmé l'écrivain Philippe Claudel, membre du jury Goncourt.
Donc le prix Goncourt des détenus, c'est une idée qu'a eu Régine Achando, la présidente du CNL, qui nous a immédiatement contactés. Et évidemment, l'Académie Goncourt, nous n'avons pu être qu'enthousiastes à l'idée de ce projet. Nous connaissons tous de près ou de loin l'univers carcéral. J'y ai moi-même enseigné pendant 12 ans. Enfin, et je suis toujours très très proche de ce monde qu'il faut quelque part ouvrir de façon à ce que les liens entre l'extérieur et l'intérieur se fortifient. Et c'était une très belle idée. Et elle devient réalité. Les ministres de tutelle, culture et justice ont donné leur aval. Et la première édition aura lieu donc cet automne. Une trentaine d'établissements pénitentiaires vont y participer sur le modèle du concours des lycéens.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut envisager ensuite? Parce que faire lire davantage de détenus, quel est l'esprit derrière ce nouveau prix?
L'esprit, c'est de mettre donc à disposition, grâce au CNL qui va fournir les livres, la première sélection Goncourt, donc dès que nous l'aurons établie au début septembre, et de permettre à des hommes et des femmes incarcérés d'être en contact avec la littérature la plus contemporaine qui soit, francophone, et puis surtout de parler entre eux, de parler de ces livres, et on sait combien il est important de parler des livres, il est important de se retrouver, de se rencontrer, de débattre, de justifier ses choix ou ses sensibilités, de faire à un moment apparaître une ou un vainqueur. Mais en tout cas, voilà, les livres servent à ça, à créer du lien. Et je crois que dans un pays comme le nôtre, où finalement il y a près de 70 000 personnes incarcérées, ce qui est énorme, ça ne cesse d'augmenter. Il faut quand même réfléchir aussi à la condition de ce que, être détenu et permettre aussi aux personnes qui sont derrière les murs des prisons d'avoir un contact avec l'extérieur. Et ça, la littérature, les livres le permettent.
Voilà, Philippe Claudel, membre du jury Goncourt, qui nous confirmait la naissance de ce nouveau Goncourt des détenus. Une réaction, Max Monnet?
Ben oui, non, vous me l'apprenez. Je trouve que c'est une super initiative. Moi, c'est vrai que c'est un milieu que je connais, que j'ai fréquenté. C'est bizarre de dire ça, mais quand j'étais enfant, parce que j'avais quelqu'un de très proche qui a passé plusieurs années en prison. Donc j'ai été visiteuse de prison, enfin j'ai visité un proche en prison toutes les semaines pendant des années. C'est aussi pour ça bien sûr que c'était un milieu dont je voulais parler, parce que la prison française a une liste de gros problèmes longues comme le bras, hein, clairement, et que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je trouve que c'est une super initiative, clairement.
Donc un prix qui sera lancé à la rentrée. Alors ce n'est pas tout à fait le premier prix littéraire hein, qui sera décerné en prison. Mais pour la première fois, on peut dire que les détenus seront à égalité avec les membres du Goncourt dans leur choix, puisqu'ils liront les uns et les autres les mêmes 15 titres sélectionnés, avec une première liste qui sera officielle le 6 septembre et une dernière sélection le 25 octobre. À Beyrouth, d'ailleurs, et une annonce à Paris de la lauréate ou du lauréat le jeudi 3 novembre. Voilà, vous savez tout. On va faire une petite pause musicale et ensuite continuer de parler de votre roman « Je suis le feu, Max Monneuil » en entrant un peu plus évidemment dans les thèmes que vous y abordez. J'ai trouvé une référence musicale, je ne sais pas si c'est celle-ci que vous voulez écouter, en l'occurrence une chanson d'Arthur H., « Navigateur solitaire ».
Ah bah oui, évidemment, avec plaisir.
Ça s'y prête. On écoute donc Arthur H.
« Navigateur solitaire » Traverse les univers, navigateur solitaire. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Et si les vagues sont tes maîtresses? Ta femme, c'est l'infini. Ni satellite, ni GPS. Seule la belle étoile au ciel. Navigateur solitaire. Tu as grandi les univers, navigateur solitaire. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Oh, dans les nuages, tu observes. Des corps de femmes alanguis. La lune s'allume qu'à pour toi. Unique adorateur de l'univers.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Max Monneuil pour son nouveau roman « Je suis le feu » paru aux éditions du Seuil, un polar qui met en scène un tueur en série, traqué par une équipe de policiers à La Rochelle et aidé par un psychologue carcéral à la prison de Saint-Martin-en-Ré, on l'a dit précédemment, Victor Caran, bien cabossé par la vie, avec un traumatisme dans son adolescence, touché par la mort violente d'une de ses proches dans sa précédente enquête et qui là va à nouveau être secoué par cette affaire à laquelle il participe. Il faut dire que c'est un pur cauchemar, avec des scènes de meurtre qui, à ma connaissance, sont inédites. Je n'en dirai pas plus. Je ne sais pas jusqu'où vous voulez raconter ce que vous avez écrit, Max Monnet. En tout cas, comme je n'ai rien vu de semblable, ni dans les journaux, ni dans les faits divers, je me demandais d'où était venue votre inspiration.
Ça, c'est une bonne question. Hein. En fait, j'ai peut-être cette petite facilité à imaginer le pire et à en faire... de la littérature. J'avais vraiment envie, effectivement, de pas refaire ce qui a déjà été fait, hein, de créer un tueur, d'abord, particulier, pas un monstre, parce que, comme le dit mon personnage, les monstres n'existent pas. Et j'avais envie que le lecteur puisse s'identifier en partie, et qu'il puisse, en tout cas, comprendre totalement de quelle manière ce tueur en était arrivé à tuer comme il le fait. C'est-à-dire, on peut juste dire effectivement qu'il tue des mères de famille devant leur fils de 10 ans, qui lui est bâillonné, les yeux bandés et un casque avec de la musique à fond sur les oreilles. Effectivement, mode opératoire très étrange, et ce qui va pousser les flics à demander l'aide d'un psychologue clairement doué dans la psyché criminelle.
Alors, comme vous venez de le dire, certaines scènes sont en effet éprouvantes, physiquement et psychologiquement, quand elles mettent en scène ces enfants d'une dizaine d'années, voire une plus petite. Est-ce que vous vous mettez des limites dans l'écriture, Max Monnet, et dans la description des scènes quand il s'agit de jeunes victimes?
Ouais, c'est une bonne question que je me pose tout le temps, en fait. Et bizarrement, moi, je suis maman aussi. Et j'ai beaucoup de mal, moi-même, à lire des scènes qui font du mal à des enfants. Mais quand j'écris, c'est pas la même chose, bizarrement. Alors, les limites, elles sont... est-ce que moi, je serais quand même capable de lire ça? Oui, voilà, elle est là, ma limite. Si je me dis que je ne peux pas lire une scène pareille, même en étant capable de l'écrire, là, je m'arrête.
Est-ce que c'est parce que vous êtes maman que c'est une histoire qui aurait pu vous inspirer, justement? Parce que vraiment, là, le lien est très fort entre mère et fils dans tous les cas de figure, que ce soit les victimes ou que ce soit le tueur, puisque c'est bien lié à son histoire personnelle aussi, cette série de meurtres.
Mmh. Disons que je pense que le lien mère-enfant ou père-enfant, hein, pour moi, il n'y a pas de différence. Hein, on peut être aussi proche de son père que de sa mère. C'est quelque chose de tellement fort, effectivement. Depuis que je suis maman, je comprends ça. Il n'y a pas d'amour plus fort. Il n'y a pas d'amour pour lequel on serait prêt à tout sacrifier. Cette force-là permet de se dire à quel point, jusqu'où on peut aller, en fait, pour son fils. Et à l'inverse, à quel point une mère peut être défaillante ou peut ne pas bien traiter son enfant.
Il y a quelque chose ici de l'ordre du tabou, non ?
Bien sûr, parce que la maternité est quelque chose de sacré.
Sacralisé aussi.
Et partout, en fait. Hein, c'est quelque chose d'universel. Et forcément, interroger ce côté sacré est toujours intéressant. Parce que ça a beau être universel, ce n'est pas systématique. Mmh. Et on voit beaucoup d'enfants qui souffrent de parents défaillants.
Mmh. Avec la figure de Médée, évidemment, qui traverse votre roman. Et puis, ça a été illustré aussi par de nombreuses œuvres d'art que vous citez. Par exemple, Saturne, qui mange son propre enfant. Ça peut être aussi des sources d'inspiration pour vous, Max Monnet?
Oui, la mythologie dit beaucoup, beaucoup de notre époque, je trouve. Elle a toujours dit beaucoup de chaque époque. La mythologie fait ressortir tout ce qu'on a en nous de monstrueux, de tabous, de cachets. On a tous parfois des pensées terribles, des pensées qu'on n'ose même pas s'avouer. Et voilà, toutes ces figures-là c'est presque une catharsis hein, de les voir s'entretuer. Ouais.
Quel est votre objectif, vous, avec le roman noir ? Est-ce que c'est faire peur, faire trembler ? Peut-être justement travailler sur vos propres peurs, vos propres cauchemars, ce qui pourrait arriver à mon enfant ou alors, de façon plus pragmatique, nous faire découvrir, par exemple, l'univers des policiers, le quotidien de ces personnes qui enquêtent, montrer les coulisses, des personnes qui ont besoin quand même de beaucoup de courage et de sang-froid pour résister à toutes les horreurs dont ils sont témoins.
Moi, c'est d'abord, clairement, donner du plaisir. Je suis là aussi pour ça, d'abord pour faire peur, le plaisir de la peur. En fait, j'essaie d'écrire ce que moi, j'aimerais lire en tant que lectrice. Et voilà, ce plaisir de la peur, du frisson, le suspense, mais tout ça porté, bien sûr, par des personnages incarnés auxquels on croit, avec lesquels on vibre. Voilà, c'est d'abord ça, mon objectif. Après, oui, bien sûr, les flics, les dessous, même aussi le métier de Victor Caran, en prison, tout ça c'est important bien sûr. Après, je ne suis pas dans une recherche de réalisme absolu. C'est-à-dire que compte d'abord pour moi la réalité des personnages, leur construction, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils représentent. Pour ce qui est des détails techniques, toutes ces petites choses, voilà, ça c'est moins important. Pour moi d'abord, c'est les personnages et c'est le frisson.
Donc ça veut dire que par exemple, Max Monet, vous n'êtes pas allé à La Rochelle dans le commissariat de police pour leur dire toc toc, je fais un roman avec des personnages qui vous ressemblent, comment vous travaillez, est-ce que je peux vous suivre sur le terrain ?
Non, alors je ne l'ai pas encore fait parce que je suis persuadée que la littérature n'exige pas ça, que l'imaginaire peut pallier à ça et puis peut même apporter autre chose, mais j'avoue que j'y viendrai un jour. Et que ce sera peut-être quelque chose qui s'ajoutera à ce que j'ai déjà créé.
Donc à la fois, vous n'avez pas besoin d'un réalisme au plus près de la réalité, mais en même temps, par curiosité, vous seriez partante quand même pour suivre leur travail.
Oui, bien sûr, par curiosité. Toutes mes recherches, en fait, la plupart de mes recherches, je les fais sur Internet. Je me renseigne quand même beaucoup. Mais il est vrai que par curiosité, j'aimerais bien rencontrer des gens qui me parlent. Après, je suis en contact avec des flics qui me donnent quand même des indications. Voilà. Mais aller sur place, c'est ce que je vais faire avec la prison très prochainement.
Et le métier de psychologue carcéral aussi, c'est un métier particulier. Ça, ça ne s'invente pas. Ça ne doit pas forcément se trouver sur Internet.
Non, mais pareil. Je pense que ce n'est pas un métier qui... très très différent de psychologue général. Bien sûr, les patients sont différents, mais le processus est le même, faire parler pour faire aller mieux. Et quand j'ai rencontré cette psychologue carcérale de Saint-Martin, elle était persuadée, elle, que j'avais visité la prison, que j'avais discuté avec des psychologues carcérales, comme quoi... Ça peut fonctionner comme ça aussi.
La fiction peut faire illusion, en effet.
Exactement.
Et vous aimeriez avoir un retour de leur part ? Je pense aux policiers de La Rochelle ou à d'autres personnes qui apparaissent comme des alter-ego dans votre roman.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et je pense que je vais pouvoir avoir ça avec celui-là ou avec le prochain, oui.
Ça vous vient d'où, ce goût pour l'écriture du roman noir, Max Monet ?
Je crois en fait que même s'il était classé en littérature générale, mon premier roman était déjà un roman noir. Ça s'appelait Corpus Christine et ça mettait en scène un homme de 35 ans qui vivait allongé, séquestré et affamé par sa femme. Donc on était déjà dans du très noir, même si c'était pas du polar. Et en fait, je crois que ça a été un genre de révélation, le polar, pour moi. Je tournais un peu autour de ce que je voulais faire sans être totalement satisfaite. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, tu ne fais que lire des polars, hein, pourquoi tu n'en écris pas ? Je crois que je faisais un petit déni, tout le travail que ça demandait en amont, c'est-à-dire une construction d'intrigue hyper, hyper précise, c'est quand même une machinerie, une horlogerie incroyable, hein. Il faut que tout soit... tout tienne du début à la fin, tout ça me faisait peur, je pense. Et en fait, peut-être que j'étais pas prête avant, mais maintenant, ouais, c'est vraiment mon truc.
Et qu'est-ce que vous lisiez comme auteur de polar ?
Oh, alors, je pourrais n'en citer que quelques-uns. Beaucoup d'Américains, James Ellroy, James Lee Burke. En français, j'aime beaucoup Olivier Norek, Fred Vargas.
Oui, donc des auteurs très contemporains quand même.
Assez, oui. J'en ai lu beaucoup aussi de plus anciens, mais...
Alors, votre éditeur vous présente sur le bandeau comme la nouvelle reine du thriller français. Ça vous convient, à Max Monnet, comme définition ?
Moi, j'aurais jamais osé oser dire ça de moi-même, mais s'il le pense, je prends le compliment.
Est-ce que c'est lié aussi au fait que proportionnellement, il y a peut-être moins de femmes que d'hommes dans ce milieu noir ?
Oui, ça reste le cas, même si on commence à être de plus en plus nombreuses. Oui, j'imagine que c'est un moyen de faire ressortir cette particularité.
Et vous avez l'impression que c'est plus difficile de s'imposer quand on est une femme dans le roman noir ou pas plus que ça ?
J'en ai pas du tout l'impression, non. Non, en tout cas, c'est pas ce que je ressens.
Donc, c'est pas pour ça que vous avez choisi, par exemple, un prénom qui n'est pas tout à fait le vôtre, mais qui, en tout cas, est mixte, Max.
Mais non, parce que ce prénom, il date de 15 ans, quand même. C'était pour mon premier... Je l'ai pris pour mon premier roman, qui n'était pas encore du polar. Donc non, c'est vrai que rien à voir. Là, c'était vraiment juste parce que il était plutôt malin de me rebaptiser. J'avais un prénom qui allait faire penser à un auteur de la même maison d'édition. Voilà, on m'a conseillé de changer de prénom et Max, ça m'amusait. Voilà.
Mais parce qu'aussi, il y avait l'ambiguïté du genre.
Ouais, alors c'est eux qui ont joué là-dessus. Moi, j'avais pas pensé à ça. J'avais 26 ans, j'étais assez naïve à l'époque. Mais eux ont joué beaucoup là-dessus, ouais.
Et des fois, il y a une surprise quand les lecteurs vous rencontrent en disant « Ah, je pensais que vous étiez un homme ».
Ouais, ça arrive encore. Ouais, ouais.
D'autant plus que votre personnage principal, depuis deux romans, est un homme.
Ça a toujours été des hommes. Ouais. Bizarrement, je me sens beaucoup plus libre pour écrire dans la peau d'un homme. Peut-être parce qu'un personnage qui ne me ressemble pas trop. Et il y a encore des lecteurs qui, quand je suis en signature... derrière un panneau qui dit Max Monnet, qui viennent me demander « Mais où est Max Monnet ? Va-t-il venir ?» Mais c'est bon, ça arrive encore.
Mais après, ils ne sont pas déçus de vous rencontrer, l'essentiel,
non,
c'est de rencontrer l'auteur.
Non, ils sont surpris, mais agréablement surpris, je pense.
Ah ben, j'en suis sûre. Prochaine enquête, c'est toujours à La Rochelle et à l'île de Ré ?
Oui. On part pour une troisième aventure de Victor Caran, oui. Toujours sur ces terres-là.
Très bien. Merci beaucoup, Max Monnet.
Merci à vous.
D'être venu nous parler de ce nouveau roman intitulé « Je suis le feu » et qui d'ailleurs, petite parenthèse, commence à l'aquarium de La Rochelle. J'aime bien cet antagonisme. Et un lieu très touristique aussi où les enfants aiment beaucoup aller. Alors là, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée pour eux. « Je suis le feu », donc publié aux éditions du Seuil. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.